Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à l'émission L'agriculture de demain de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui, autour de la table ici en studio, M. Simon Bégin et M. Michel Saint-Pierre. Mais pour nous parler aujourd'hui de l'agriculture suisse, qui est une référence pour le Québec, je laisse la parole déjà à M. Guy de Bailleul. Guy, bonjour.
Bonjour Sébastien. Oui, lorsqu'on parle de production laitière ici au Québec, on fait souvent référence au Wisconsin, à la Nouvelle-Angleterre ou au Danemark. On évoque moins souvent la Suisse. Et pourtant, alors que beaucoup de producteurs suisses sont venus s'installer au Québec, nous avons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec un agronome québécois qui, lui, a choisi de faire sa carrière en Suisse. Il s'agit de Pierre Julien, qui est actuellement de passage au Québec et qui est installé en Suisse depuis près de 35 ans. Il nous a semblé que c'était l'occasion de comparer les agricultures des deux pays et de souligner quelques spécificités de l'agriculture suisse qui pourrait nous inspirer.
Oui, alors oui, Guy, c'est Simon. Alors oui, effectivement, grâce aux chiffres que vous avez fournis, on peut se faire une idée de ce qui est semblable et différent entre l'agriculture québécoise et l'agriculture suisse. Rapidement, au point de vue de population, on est très semblable. 8,5 millions de Suisses, 8,6 millions de Québécois. Mais quand on regarde le paysage agricole, c'est très différent. En termes de superficie, évidemment, le Québec domine de beaucoup avec 6,3 millions d'hectares en zone agricole, comparativement à seulement 1 million en Suisse. Quand on regarde les terres arables, par ailleurs, l'écart est peut-être un peu moins grand. 400 000 hectares en Suisse, 1,1 million d'hectares au Québec. Et quand on rentre dans les détails, bien là encore, là, les écarts s'amenuisent. Si on regarde le blé, entre autres, ce qu'on voudrait couvrir particulièrement, en Suisse, la culture de blé couvre 90 000 hectares et 94 000 seulement au Québec. Alors, on voit là que l'écart se rétrécit là-dessus. Et si on parle du blé planifiable, bien là, c'est le contraire. C'est la Suisse qui nous domine de beaucoup. 88 000 hectares de blé planifiable en Suisse et à peu près 30 000 hectares au Québec à peu près. Là, on ne le sait pas trop. La production laitière, c'est le sujet qui est très important. 18 000 producteurs en Suisse et 4 700 au Québec. C'est un écart énorme. Alors, si on regarde le territoire agricole puis le nombre de producteurs, ben ça donne quoi? Ça donne que le nombre moyen de vaches en Suisse par producteur, c'est 30 vaches et au Québec, c'est 76 vaches. Alors, on voit qu'il y a des écarts en termes de taille des entreprises. Alors, écoutez, là-dessus, Guy, je vous laisserai y aller avec votre invité, M. Julien.
Alors, Pierre, parce qu'on peut se tutoyer depuis très longtemps, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à nous parler de l'agriculture suisse et des comparaisons que l'on peut faire. Mais avant, peut-être qu'on serait intéressé à connaître un peu ton trajet, ce qui t'a amené à quitter le Québec et puis à t'installer en Suisse, alors que tu avais fait tes études d'agronomie ici.
Bonjour tout le monde déjà. Moi, j'ai grandi dans la région de Québec, donc dans un milieu rural. Mes grands-parents étaient les deux agriculteurs, mes parents plus. Effectivement, j'ai étudié à l'Université Laval, au Collège McDonald, et puis j'ai gradué en 84. Et à ce moment-là, j'étais marié avec une Suissesse. J'avais voyagé en Europe, comme bien les jeunes, avec mon sac à dos. J'avais rencontré une dame qui est devenue ma femme, et puis on s'est mariés ici à Montréal, et on est retourné après que j'ai obtenu mon diplôme, on est retourné en Suisse, et puis j'ai travaillé au début comme ouvrier agricole. Ça a été un peu long pour arriver à trouver une place comme agronome, et puis on a fait quelques allers-retours Québec-Suisse, puis quand le premier enfant est arrivé, on était en Suisse, alors on est resté.
Et donc, tu t'es retrouvé à l'Institut de Grangeneuve.
Ouais, mon premier travail comme agronome, c'était à l'Institut agricole de Grangeneuve. J'enseignais, je faisais de la vulgarisation, donc du conseil agricole. Et là, je m'occupais de tout ce qui est agro-environnement pour le canton de Fribourg, qui est un des 24 cantons suisses, canton bilingue, allemand-français. Et je travaillais essentiellement dans la partie francophone, bien sûr, et j'ai travaillé là-bas pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé au niveau roman, donc la partie francophone de la Suisse, encore pendant une quinzaine d'années. Et j'ai pris récemment ma retraite après 6 ans dans un bureau d'ingénieur conseil.
Alors, il faut savoir que Pierre a été associé à l'organisation de mission de responsable suisse de l'agriculture au Québec à plusieurs reprises. Et il a été aussi parmi les... Il a participé à l'organisation de la mission de la commission Pronovo en Europe, où il nous a accueillis. Et à ces titres-là aussi, il a pu être le témoin de réactions de responsables suisses face à l'agriculture au Québec. Peut-être qu'on pourrait déjà effectivement évoquer certaines des surprises que les responsables suisses avaient quand ils visitaient l'agriculture du Québec, ne serait-ce que du point de vue du bien-être animal, par exemple. Tu as des anecdotes là-dessus?
Ouais. Lors d'un des premiers voyages d'une mission suisse au Québec en 2004, j'étais accompagné par les dirigeants de l'agriculture suisse, les décideurs au niveau agricole et environnemental de la Suisse. On était en visite sur une très belle exploitation laitière près de Québec, très bien tenue, et on avait un apéritif et puis de quoi manger qui était prévu dans l'étable. C'était super propre, mais les vaches étaient bien sûr attachées, comme c'est le cas dans la plupart des exploitations québécoises encore maintenant, je pense. Et les couches étaient très courtes. Les vaches étaient d'un gros gabarit, les couches étaient très courtes. Et mes collègues suisses ont appris que ces vaches sortaient de l'étable que pour aller à l'abattoir, ils ont été choqués. C'est très loin du bien-être animal tel qu'il est vu en Suisse. Et c'était pour l'exploitant qui nous a accueillis, qui était par ailleurs quelqu'un de très bien comme exploitant agricole, il y avait une totale incompréhension des questions des Suisses à ce sujet. Et une autre chose que je peux aussi dire, on a été aussi une fois dans la Beauce, c'était lors d'un autre voyage, et on a visité une exploitation où il y avait des truies en élevage, des porcs à l'engrais, des poules pondeuses, je ne sais plus combien, 20 000 poules pondeuses, 17 000 poules pondeuses, l'élevage de poulettes avec 2,5 temps plein en main d'œuvre. Et puis là, mes collègues étaient soufflés, disaient, mais comment est-ce qu'on peut arriver à concurrencer avec des structures pareilles? En Suisse, il aurait fallu 10 hommes pour s'occuper de ça.
c'est déjà toute l'indication de différence à la fois dans les tailles des élevages, mais aussi dans la perception d'un certain nombre de problèmes. Je pense que le bien-être animal ou les questions environnementales, on va y revenir. Une des caractéristiques qu'on découvre très vite à propos du fonctionnement de l'agriculture suisse, c'est tout ce qui concerne la reprise des terres. On sait qu'au Québec, l'augmentation rapide du prix des terres était préoccupante, parce que elle rend plus difficile le transfert des fermes d'une génération à une autre. Alors, c'est pas un problème propre au Québec, mais c'est quand même, on sait, une assez grande préoccupation. On a l'impression qu'en Suisse, on a été confronté à ce problème-là depuis très longtemps, parce que dès 1912, autrement dit, il y a plus d'un siècle, la notion de valeur de rendement agricole a été introduite dans le droit foncier suisse. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais nous indiquer un peu en quoi consiste la valeur de rendement?
C'est quelque chose qui est assez étonnant pour moi comme jeune agronome. J'ai mis un moment à comprendre ce que c'était puis les implications que ça pouvait avoir. Donc ça, c'est un principe qui est inscrit dans le droit foncier rural suisse et qui vise à favoriser la reprise des exploitations par la descendance. Alors, si on veut, je vais donner un exemple. Un exploitant agricole, il arrive près de la retraite, il a un domaine qui, sur le marché, par exemple, si il le mettait en vente librement, vaudrait peut-être 5, 6, 7, 8 millions de francs suisses. Mais il a un fils ou une fille qui est prêt à reprendre. Et puis le fils ou la fille qui est prêt à reprendre, un privilège, il a le droit de reprendre, il a un droit qui fait qu'il peut reprendre ce domaine agricole à ce qu'on appelle la valeur de rendement. La valeur de rendement, c'est le prix qu'il peut payer de façon à être capable d'assumer avec les revenus de l'exploitation comme elle est, on évalue l'exploitation à ce titre-là, il doit être capable de payer les intérêts de la dette qu'il aura auprès de son père ou de l'entreprise financière qui va le financer avec le revenu de l'exploitation. C'est-à-dire que en général, on va se trouver avec une valeur de rendement. Donc, le père n'a pas le choix. Il ne peut pas dire « je ne donne pas le domaine à mon fils » à partir du moment où le fils ou la fille a une formation agricole. Il doit le remettre à la valeur de rendement. Et cette valeur de rendement, ça varie, mais on estime que c'est entre 10 et 15 souvent 10 et 15 % de la valeur vénale, de la valeur du marché, souvent moins. Un exemple, dans ma famille, la valeur ma belle famille, si on veut, la valeur de sur le marché de l'exploitation agricole qui a été remise au fils, était autour de 5 millions. Il a payé 250 000 francs. Donc, ça assure la pérennité de l'exploitation familiale agricole. Et c'est inscrit dans la loi comme ça.
Mais oui. Pierre, c'est Michel Saint-Pierre. Vous nous entendez, oui?
Oui.
Oui, bon, OK.
Oui.
Mais ça, d'une part, il doit y avoir, si je comprends bien, formation en agriculture. Donc, la personne qui prend la relève doit avoir cette formation en agriculture, déjà.
Oui.
Comme rien. Et l'autre chose, c'est que la valeur de rendement doit varier beaucoup aussi d'une exploitation à l'autre, même entre voisins, j'imagine, parce que tout le monde n'est pas dans la même production, tout le monde n'a pas nécessairement le même rendement.
Oui, elle varie, mais dans la fourchette est beaucoup moins grande que pour la valeur du marché ou la valeur vénale, si on veut. Bien sûr, on va quand on taxe, on taxe pour la valeur de rendement, on évalue la valeur de rendement, on va évaluer l'état des bâtiments, les machines, les terres. Un agronome, il part avec sa tarrière et puis il va sonder les sols pour évaluer le potentiel de production des sols. Donc, bien sûr qu'il y a des différences en fonction des régions, en fonction des types de production, etc. Mais plus la valeur de rendement est élevée, plus on peut imaginer que la valeur sur le marché sera aussi élevée.
Donc, il y a une personne, un professionnel qui va évaluer qui va donner cette valeur de rendement-là. Donc, ouais. Ça devient, dans le fond, le montant de la transaction.
C'est le montant qui, en principe, après, va être accepté. Il faut comprendre que les frères et sœurs qui sont non-agriculteurs sont quelque part un peu lésés dans cette démarche. Mais c'est une... Moi, j'appelle ça, c'est les frères et sœurs qui subventionnent l'agriculture suisse.
Oui.
Généralement, ça se passe bien. Quelquefois, il y a des tensions, mais généralement, ça se passe bien. C'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités.
Écoutez, on doit s'interrompre pour une brève pause. Et au retour, je crois que Maxime aurait une question à soulever. Alors, à tout de suite.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Alors, nous sommes de retour à l'agriculture de demain, où aujourd'hui, nous recevons M. Pierre Julien, un Suisse-Québécois ou un Québécois-Suisse, c'est selon. En fait, qui est un agronome qui a fait toute sa carrière en Suisse et qui nous parle des points de convergence et de différence entre l'agriculture québécoise et l'agriculture suisse. On vient de voir qu'en termes de bien-être animal et de transmission des domaines agricoles, il y a d'énormes différences. Mais en tout cas, on verra s'il y a aussi des points de convergence. Alors, je crois que Maxime, tu avais une question à poser à M. Julien.
Exact. Bonjour, M. Julien. Vous parliez de valeur de rendement. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a aucun enfant de la famille qui est prêt à reprendre la ferme et que ce soit un autre jeune qui aimerait la reprendre? Est-ce que lui aussi a droit à la valeur, au rabais de la valeur de rendement ou si ça va être la pleine valeur marchande?
Non, là, c'est le gros lot. Ça veut dire, à ce moment-là, s'il n'y a pas de, dans la famille de repreneur, et puis si l'agriculteur qui remet, veut pas faire un cadeau à un jeune qui l'a formé ou je sais pas quoi, c'est le marché. C'est un autre agriculteur. Il faut être agriculteur pour acquérir des terres, hein. Tu peux pas, on peut pas imaginer maintenant une banque ou une compagnie d'assurance qui achète des terres agricoles. C'est interdit. Il faut avoir une formation agricole. Il faut être agriculteur pour acheter de la terre agricole. Et là, c'est le prix du marché. Et le prix du marché, ben, il dépend des moyens de celui qui achète surtout. Alors, il y a des agriculteurs autour des grandes villes en Suisse qui ont vendu du terrain à bâtir. Du terrain constructible et puis qui ont des gros moyens, puis c'est comme ça qu'il y a une trentaine d'années, il y a beaucoup d'exploitations agricoles romandes dans la partie francophone du canton qui ont été rachetées par des agriculteurs alémaniques, donc qui venaient de la partie alémanique autour de Zurich ou de Saint-Gall et qui ont acheté des terres pour des millions.
Alors il y a beaucoup d'autres éléments, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de passer en revue tous les points qu'on aurait à l'esprit. Soit dit en passant, peut-être on peut un petit point sur le syndicalisme agricole, parce que souvent on parle de l'Union suisse des paysans et on a à chaque mission il y avait des représentants ou le directeur même de l'Union suisse des paysans qui était présent. Mais il faudrait peut-être se garder de faire un parallèle entre l'Union suisse des paysans et l'Union des producteurs agricoles au Québec. L'Union suisse n'a pas une vocation de monopole de représentation.
Non, il n'y a pas d'obligation pour l'exploitant agricole d'être membre de l'Union suisse des paysans ou d'un autre syndicat agricole. Il y en a en principe deux. Il y a Unitaire qui s'apparente un tout petit peu à... Bon, c'est un nouveau, ça a peut-être 25 ans, hein, mais un nouveau courant de l'agriculture, puis c'est avec l'Union suisse et paysans, ce sont les deux. On peut peut-être assimiler Unitaire à la Confédération paysanne ici au Québec.
En France.
Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'Union suisse des paysans, c'est un regroupement des fédérations de chaque canton. Okay, donc l'agriculteur, il va être membre de, par exemple, de l'Union des paysans fribourgeois pour le canton de Fribourg, et l'Union des paysans fribourgeois est membre de l'Union suisse des paysans. L'Union suisse des paysans, les paysans en Suisse, en principe, ont un poids politique très important, surdimensionné par rapport à la population. Ils ont des représentants au niveau du Parlement fédéral qui sont très actifs, ils sont très bien représentés. Il y a une part d'élus au niveau fédéral qui est beaucoup plus important que la part des agriculteurs dans la population. Et ils défendent très, très bien les intérêts du monde agricole.
Oui, Maxime.
Si je me trompe pas, l'Union suisse des paysans ne représente que à peu près 5% des fermes suisses, alors qu'ici au Québec, l'UPA prétend représenter 100%. Donc, effectivement, il y a très, très grande différence à ce niveau-là. L'UPA ne représente pas tous les fermiers, mais ramasse les cotisations de 100% des fermes. C'est un monopole. Bon.
Je ne connais pas les chiffres sur la part des membres de l'USP, mais bon, c'est quand même l'Union suisse des paysans et Unitaire, donc les deux principaux syndicats qui négocient avec l'Office fédéral de l'agriculture, qui pilote le tout. C'est eux qui négocient les conditions cadres pour l'agriculture suisse. Et ma foi, avec beaucoup de succès.
Alors, on évoquait tout à l'heure la réflexion d'un responsable justement de l'Union suisse des paysans qui disait que la Suisse avait peut-être 10 ans, voire 15 ans d'avance sur le Québec en ce qui concerne les questions environnementales. Alors, on pourrait peut-être revenir là-dessus parce qu'on a l'impression effectivement que dans le budget de l'agriculture suisse, un budget qui est très élevé, les mesures en faveur des pratiques environnementales plus durables sont très importantes.
Oui, oui. Et il y a eu un virage, là. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai commencé à travailler comme agronome en 85. Et puis là, c'était l'époque du club des 100 quintaux pour le blé, c'était la production très intensive et les agriculteurs étaient incités à produire. La Confédération suisse rachetait l'essentiel des produits pour les remettre sur le marché et la consigne aux agriculteurs, c'était produisez, nous on s'occupe du reste. Et puis produisez autant que vous pouvez. Alors, il y avait des rendements agricoles qui étaient très, très élevés avec des conséquences environnementales aussi qui étaient très néfastes. On a tout à coup beaucoup trop de nitrates dans les eaux souterraines. J'ai été engagé d'ailleurs dans mon premier travail pour m'occuper de ces questions-là. Trop de phosphate dans les lacs, peu de biodiversité, le moindre mètre carré était cultivé de façon intensive et puis la population suisse a commencé à réagir. Alors, en 92, il y a eu un virage. Et ce qui a été mis en place après 2-3 années d'essai, c'était ce qu'on a appelé des paiements directs. C'est-à-dire, l'agriculteur était rétribué, touchait des subventions, disons en guillemets, de la Confédération suisse pour des prestations agro-environnementales. Et c'était pas obligatoire au début, puis c'est toujours pas obligatoire, mais maintenant c'est devenu presque inévitable. Alors, l'agriculteur suisse touche ses paiements directs pour toute une série de prestations qu'il offre à la société, protection du paysage, contribution à la biodiversité, protection des eaux. Il y a des dizaines de mesures pour lesquelles il peut s'inscrire et pour lesquelles il va toucher des contributions. Peu à peu, ces paiements directs sont devenus vraiment essentiels dans le cadre du revenu agricole. Si on fait une moyenne, le revenu net agricole en Suisse, il correspond à peu près à ce qui touche en paiement direct chaque agriculteur. Alors, il y a, en dollars canadiens, dans le cadre du budget agricole, il y a 5,5 milliards par année qui est distribué par la Confédération suisse. Il y a aussi de l'argent qui est versé par les cantons, moins, mais quand même. Et de ce montant-là, de ces 5,5 milliards, il y a 3,6 milliards qui sont constitués des paiements directs. Le reste, c'est les améliorations foncières, du financement pour des infrastructures, etc. Et ce qui fait que on a à peu près maintenant, je pense, 98 ou 97% des agriculteurs suisses qui touchent des paiements directs, donc qui doivent respecter ce qu'on appelle les prestations écologiques requises. Ces conditions doivent être, toute une série de conditions doivent être remplies, les conditions de base doivent être remplies pour qu'il ait droit à ces paiements directs. Ce qui fait que l'enjeu environnemental a beaucoup progressé là, depuis ça.
Oui, tu parlais des prestations écologiques requises. En fait, c'est une des dimensions de la multidimensionnalité ou de l'éco-conditionnalité importante dans la politique agricole suisse. On sait qu'au Québec, ces mesures sont assez limitées puisqu'on s'en tient quasiment au plan phosphore. Mais on voit que chez vous, c'est vraiment essentiel.
Oui, oui. Les agriculteurs, entre autres, si on parle de fertilisation, les agriculteurs doivent avoir un bilan équilibré d'éléments nutritifs sur leur exploitation. On calcule En vrai, selon les cultures en place, les besoins en azote, en phosphore, en potasse, en magnésium sur l'exploitation. On calcule précisément la production par les engrais de ferme de l'exploitation, et l'agriculteur a le droit, en guillemets, d'acheter des engrais minéraux, donc des engrais du commerce, de façon à couvrir ses besoins, mais pas plus.
D'accord. Écoutez, le temps passe déjà. Je crois que Michel aurait une intervention.
Je voudrais faire un peu de chemin sur le même sujet. D'abord, l'agriculture suisse, elle est très bien soutenue, fortement subventionnée. Ce qui amène, évidemment, et vous venez de mentionner sous quelle forme. Alors, sous une forme de paiement direct pour différentes actions. Mais est-ce que la relation entre le producteur agricole et le citoyen suisse urbain qui devient de plus en plus la grosse majorité des gens, est-ce que cette relation-là change dans le contexte actuel avec tout le côté environnemental, la sensibilité par exemple à des phénomènes comme particulièrement les pesticides? Je crois que c'est un peu partout la même chose. Est-ce qu'il y a une sorte de changement qui s'opère par rapport à la relation qui était, à mon avis, très bonne lorsque je suis allé la dernière fois, il y a peut-être une quinzaine d'années?
Oui, effectivement, la population suisse est attachée à son agriculture. Mais par contre, ce qui a changé, c'est que la population suisse non agricole, elle a le sentiment de contribuer au revenu de l'agriculture, ce qui est juste, hein, avec ses impôts. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'avoir des exigences qui sont plus élevées. Les relations ville-campagne, pour simplifier, appelons ça comme ça, elles sont plus tendues qu'avant. En 2021, vous savez que les Suisses votent fréquemment pour différentes choses, mais en 2021, il y a eu deux initiatives populaire du peuple, si on veut, qui ont été inscrites en votation. Et le peuple suisse a dû se prononcer sur deux initiatives qui visaient, je simplifie, à interdire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture suisse, pour une, et à fortement limiter l'utilisation des pesticides pour l'autre.
Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait, malheureusement. Écoutez, moi, je retiens que si en quelques années, on disait que le Québec, en point de vue agro-environnemental, était un peu en retard de 10 à 15 ans sur la Suisse, est-ce qu'on peut peut-être espérer que dans 10 ans, on aura rejoint ce niveau-là de préoccupation pour notre environnement? Alors, merci beaucoup, M. Julien. C'était extrêmement intéressant. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion éventuellement de reprendre la conversation. Alors, merci à tous et à la prochaine.
Merci.
Merci à vous.
À la prochaine.